pas eu l'occasion de saluer ce matin. Je vous invite à lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 17. Luc, chapitre 17. Et je vous invite à lire les versets 5 et 6. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le Seigneur répondit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et je vous le dis en vérité, il vous obéirait. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous réunir encore ce matin en ta présence. Merci parce que ce matin encore tu veux nous révéler ton amour. Merci parce que ce matin tu veux encore nous faire connaître ta volonté. Nous voulons te demander maintenant, Seigneur, de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, parce que nous l'aurons entendue sans la recevoir, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos esprits, au nom de Jésus. Amen. Un jour, les apôtres demandent à Jésus une foi plus grande. Et la réponse de Jésus les prend à contre-pied. Vous voulez que j'augmente votre foi ? Mais si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde. Alors, ne sont pas nombreux ceux qui ont eu l'occasion de voir un grain de moutarde. Juste pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, un grain de moutarde, c'est à peine un peu plus gros qu'une tête d'épingle. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer, et je vous le dis en vérité, la montagne vous obéirait. Un autre jour, à une femme qui n'est pas juive, Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, femme, ta foi est grande. Ce que j'aime avec Jésus, entre autres, c'est qu'il dégonfle la prétention de ceux qui pensent qu'ils ont déjà la foi. Et il l'affirme chez des personnes en qui on ne s'attend pas à la trouver. Je vous propose de réécouter ce texte que vous connaissez, que nous connaissons tous, dans Matthieu 7, au verset 21 et 23. Je vous le dis en vérité, ceux qui me disent : Seigneur, ô Seigneur, je vous le dis en vérité, ceux-là n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Entrera dans le royaume de Dieu celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et c'est la raison pour laquelle en ce jour-là, plusieurs me diront : Mais Seigneur, N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, moi je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez que l'iniquité. Et Jésus est en train de nous dire que l'appartenance au royaume, c'est une expression qui est pleine de promesses. Entrer dans le royaume des cieux, vivre la vie dans sa sérénité, ne plus être sous le poids de la culpabilité, ne plus être sous le poids de la mort. Jésus nous dit que ce royaume n'est pas pour ceux qui disent seulement « Seigneur, Seigneur », ni même pour ceux qui accomplissent des miracles. Et ça, c'est surprenant. C'est surprenant parce que, pour nous, accomplir des miracles, c'est souvent perçu comme un signe de foi supérieure. Alors si nous avons des oreilles pour entendre, ce matin, Jésus nous dit, pas du tout. Faire des miracles, ce n'est pas un signe de foi. Alors, je voudrais que nous nous posions sérieusement la question, ce matin, au seuil de notre Assemblée Générale, qui peut avoir la foi ? Celui qui fait la volonté de mon Père. Alors, remarquez dans le texte la confrontation du pluriel et du singulier. Ceux qui disent et ceux qui font et celui qui. Le pluriel veut nous mettre sur la piste du phénomène religieux, du phénomène collectif, et le singulier nous met sur la piste de la personne. La volonté de Dieu se révèle à celui qui éprouve le besoin de Dieu. Parce que la foi est d'abord de l'ordre du besoin. Le besoin vital que j'ai de Dieu. Il y a, je le crois, frères et sœurs, chers amis, deux catégories d'individus dans les évangiles. Il y a d'abord ceux qui baladent leur foi comme une médaille, qui recherchent la foi pour faire des choses, et il y a ceux qui ont besoin de Jésus pour vivre. Ceux qui ont besoin de Jésus pour espérer, qui ressentent leur existence ressentie comme vide, comme douloureuse, comme désespérante. Si Dieu ne s'en mêle pas. Et nous constatons donc que la foi dans les évangiles commence toujours dans cette épreuve du besoin de Dieu. Quand la présence ou l'absence de Dieu, c'est l'espérance ou la désespérance. Cette foi n'est donc pas une qualité objective comme l'intelligence. C'est une déchirure, c'est un manque, c'est un besoin vital de Dieu qui me déplace vers lui. Quand je le sens là. Quand Jésus se retire vers Tyr et Sidon, alors cette femme se met à crier. Elle crie son besoin. Elle crie sa peur. Elle crie sa douleur. Fils de David, aie pitié de moi. Ce n'est pas une belle foi positive. Ce n'est pas une foi astiquée. Ce n'est pas une foi brillante. C'est une foi de larmes. C'est une foi de sang. C'est une foi de peur. Elle, la non-juive, elle, la cananéenne, elle crie son besoin, le besoin qu'elle a, et elle se tourne vers Jésus. Jésus renvoie toujours à leurs études ceux qui arrivent à lui avec une foi bien astiquée. Dis-moi, bon maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle ? C'est une démarche qui est positive. Que puis-je faire ? Et Jésus lui demande alors l'impossible. Et celui qui est arrivé tout fier repart tout triste. Et probablement que les apôtres sont repartis perplexes devant la remarque de Jésus. La femme cananéenne, elle est repartie apaisée. Il y en a un qui dit « Que puis-je faire ? Que puis-je faire ?» Et l'autre dit « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » La foi est d'abord de l'ordre du besoin, et ce besoin est le début d'une relation. La question des apôtres présuppose la foi comme une capacité humaine. J'aurai de la foi comme j'ai des muscles, comme j'ai de l'intelligence. Une capacité positive que je peux mobiliser pour accomplir des œuvres particulières, faire des miracles. Mais quand Jésus dit à cette femme « Ta foi est grande », il atteste sa foi dans sa dimension première du besoin. Pour les apôtres, cette femme est d'abord une casse-pied parce qu'elle n'arrête pas de hurler. Et comme les apôtres sont des gens qui aiment bien le silence, combien de fois ils ont demandé à Jésus de faire taire les casse-pieds. Mais aller faire taire quelqu'un qui crie un besoin. Cette femme a besoin de Dieu. Cette femme a besoin de Jésus. Est-ce que nous ressentons le besoin de Dieu ? Ou est-ce que nous sommes là ce matin par habitude ? Parce que le réveil a sonné et qu'il fallait bien se lever ? Qu'il fallait bien venir ? Parce que sinon on aurait vu que j'étais pas là ce matin ? Est-ce que nous sommes là ce matin pour chauffer une chaise ? Ou est-ce que nous sommes venus ce matin pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ? Oui, cette femme est une casse-pied, mais cette femme a besoin de Dieu. Et personne n'arrivera à la faire taire. Regardez-là cette femme s'accrocher à Jésus. Elle ne se laisse pas décourager. Plus on lui dit de se taire, plus elle hurle. Son besoin est tel qu'elle s'accroche totalement à Jésus. Sa foi s'exprime en criant son besoin, sa souffrance. C'est un véritable appel au secours. Le mot foi recouvre plusieurs réalités convergentes. D'abord, cette foi initiale qui nous attache à Jésus, il nous attache comme une espérance. Que sait-on sur Jésus ? Nous ne savons pas grand-chose sur Jésus, sinon que l'on attend de lui ce qui nous permettra de vivre. La foi, comme besoin fondamental de la présence et de l'agir de Dieu. Il y a ensuite la foi. La foi comme confession de foi. C'est ce que nous apprenons dans cette relation. C'est ce que nous croyons ensemble. Nous apprenons ensemble à connaître Dieu tel qu'il se donne à connaître en Jésus. Et cela devient la foi chrétienne. Ce que les chrétiens croient à propos de Dieu et de son action. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Cette foi-là peut, dans une certaine mesure, s'argumenter, se raisonner. C'est l'œuvre de la théologie. Mais il y a une troisième dimension dans la foi. C'est celle que j'appelle la foi qui entreprend quelque chose. Parce que Dieu nous confie ce quelque chose. Selon la foi dans l'Épître aux Hébreux, c'est là qu'elle se trouve. Et nous lisons que c'est par la foi qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Là, c'est la foi confiante. La foi qui fait confiance en la fidélité de Dieu, qui nous permet dans notre vie de bousculer nos habitudes, nos sécurités, prendre des risques pour Dieu, prendre des risques pour le servir. Un jeune qui abandonne un beau projet professionnel pour devenir missionnaire. Un jeune qui abandonne son métier pour faire des études de théologie et pour devenir pasteur. Il répond par la foi. Il a confiance en cet appel de Dieu. La foi, c'est la confiance que Dieu accomplit ce qu'il demande. Cette foi d'obéissance dans la confiance, c'est celle à laquelle nous tous, chrétiens, nous sommes appelés. Parce que nous sommes tous les jours confrontés à cette foi. Dans des tas de situations, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Elle est là et elle bouscule nos habitudes. Elle nous provoque. Parfois, elle nous titille. Et la foi, frères et sœurs, c'est une relation qui naît. C'est une relation qui se développe dans la confiance. Quelqu'un me disait l'autre jour, j'aimerais avoir votre foi, monsieur le pasteur. Et on s'imagine tous que la foi, c'est un peu comme la pluie. Vous sortez, et alors que vous ne vous y attendez pas, plaf, la pluie tombe sur vous. Ce n'est pas comme ça que naît la foi. La foi ne peut naître, la foi ne peut se développer en nous que sur une relation de confiance. Avez-vous confiance en Dieu ? Dieu peut-il avoir confiance en vous ? Alors oui, la relation va se développer. comme toute relation, tout cela évolue, mûrit, s'approfondit, se fortifie, et nous passons du besoin brut de Dieu à une relation plus riche de confiance, de connaissance, d'expérience. Et cette confiance va devenir la confiance dans ce que représente la croix. C'est la confiance que ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ me concerne. Et que là, dans la croix, mon péché, le mien, pas celui du voisin, pas celui de la voisine, mon péché a été effacé. Ce qui m'éloigne de Dieu, tout ce qui me condamnait au regard de sa sainteté a été détruit. Qu'une nouvelle relation est née et que cette relation, si je le veux, car comme le dit un de mes amis anglais avec son bel accent, Dieu est un gentleman. Si je le veux, cette nouvelle relation peut être forte, indestructible, parce que c'est Dieu qui l'a créée. Et quand je pense que tout cela dépend de moi, alors je peux me mettre à genoux et lui dire, Dieu, tu es bon. Tu es bon parce que tu me respectes. Tu n'attends pas de moi quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Tout ce que tu me demandes, non seulement je suis capable de le faire, mais en plus, tu vas m'aider à le faire. Parce que tu vas m'équiper. Tu vas me donner les armes. Alors s'il se trouve quelqu'un ce matin parmi nous, un frère ou une sœur, qui est venu avec cette idée en tête, mais je ne peux pas faire ce que Dieu me demande de faire. Eh bien, je vous demande de réviser votre copie. Parce que si Dieu vous appelle, il vous armera pour le faire. Peut-être qu'il se trouve parmi nous quelqu'un qui se pose encore des questions sur Dieu, sur l'amour de Dieu. Eh bien, à cette personne, je veux lui dire, fais confiance en Dieu. Entre dans une relation avec lui. Arrête d'avoir une relation superficielle. Arrête d'avoir une relation peu développée. Arrête. Car si tu continues à t'éloigner petit à petit de Dieu, que tu le veuilles ou non, cette relation un jour va s'éteindre. C'est comme une bougie. Petit à petit, elle s'éteint. Maintenant, je voudrais terminer en rappelant quand même qu'une relation riche avec Dieu suppose l'absence. Je m'explique. Quand je retrouve un ami que je n'ai pas vu depuis des années, c'est comme si nous nous étions quittés hier. La foi comme expérience permet de vivre l'absence de Dieu. Les épreuves violentes de l'existence peuvent surgir. J'ai confiance en Dieu parce que je sais qu'il est là. Même si tout semble me dire qu'il n'est plus là, je sais par la foi qu'il est là, qu'il agit. Encore faut-il savoir comment je dois prier, comment je dois l'aborder. Et je voudrais terminer par une expérience que j'ai vécue. Et ce jour-là, croyez-moi, j'ai pris la plus grande claque de la part de Dieu dans ma vie. Mon père était à l'hôpital. Il était 4 heures du matin, l'infirmière des urgences nous appelle en disant « Votre père va mourir, venez vite maintenant ». Avec maman, nous sommes partis, les trois frères et mes trois belles-sœurs, Joël et moi. Et maman nous a dit, nous allons nous donner la main, mes chéris, autour du lit de papa, et nous allons prier. Alors comme nous sommes des enfants obéissants, nous avons obéi notre maman. Nous sommes donné la main et nous avons prié. Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de papa. Tu sais combien nous l'aimons. Alors Seigneur, toi tu es tout puissant. Même si la médecine le condamne, nous savons nous que tu es tout puissant. Alors guéris-le. 5h du matin, guéris-le. 6h du matin, guéris-le. 6h30 du matin, moi Jean-Claude Chong, j'en ai marre. Alors je dis à maman, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais me coucher. Ça fait 2h30 qu'on demande au Seigneur de guérir papa. Alors si Seigneur voulait guérir papa, ça ferait 2h30 qu'il serait debout. Alors vous, vous continuez, moi je vais me coucher. Et maman est venue me chercher dans le couloir et elle m'a dit, mon chéri, ne pars pas, on a besoin de toi. Mais nous allons maintenant prier autrement. J'ai dit, ah bon, on va faire comment? Viens, chérie. J'ai donc suivi maman. Elle nous a regardés tous les 8. Elle nous a dit, voilà, maintenant on va faire qu'une seule prière. Et moi j'ouvrais les grands yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va demander à Dieu qu'on n'a pas demandé depuis 2h30? Et maman a fait cette prière. Seigneur, tu sais à quel point nous aimons papa. Tu sais à quel point nous voulons le garder. C'est notre volonté. Mais ce n'est pas notre volonté que nous voulons, c'est la tienne. Alors si tu veux reprendre papa, je t'en supplie Seigneur, reprends-le maintenant. Et vous me croirez si vous voulez, mais Dieu est témoin que ce que je dis est vrai. Papa est parti dans la seconde même. La volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Je lui ai dit, il m'a dit, mais j'ai prié pour qu'elle continue à m'aimer, cette jeune fille. Je lui ai dit, ah bon. Et je lui ai dit, mais Dieu, il t'a exaucé. Mais je me dis, je comprends rien. Ben, je lui ai dit, ben, Seigneur, tu sais que j'aime cette jeune fille. Ta volonté soit faite, fais qu'elle continue à m'aimer. Puis la volonté de Dieu, c'est qu'elle ne continue pas à t'aimer. Donc il a fait sa volonté. Bon, il me dit, avec toi, on ne peut jamais parler. Mais qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Seigneur, que ma volonté soit faite ou que ta volonté soit faite? C'est complètement différent. C'est comme prendre la décision d'obéir à Dieu. Vous prenez des risques. Parce qu'admettons que Dieu vous prenne au mot. Moi, un jour, je lui ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'étais photographe, je suis devenu pasteur. Et pourtant, croyez-moi, j'avais un boulot qui marchait bien. C'est dangereux de demander à Dieu que sa volonté soit faite. Et l'Épître aux Hébreux nous donne une promesse. Regardons toujours à Jésus, c'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui la rend parfaite. Alors ça fait déjà 3 fois que je vais dire pour terminer, mais ne croyez jamais un pasteur quand il vous dit je vais terminer. Parce qu'en principe, il en a encore pour une demi-heure. Comment puis-je avoir la foi? Eh bien, je voudrais vous donner quelques repères. Est-ce que j'éprouve le besoin de Jésus? Besoin de le connaître, de chercher en lui un exemple, de chercher en lui une expérience, une sagesse. Est-il pour moi à la fois une joie? Est-il pour moi une sérénité? Et puis Jésus est-il pour moi un mystère? Quelqu'un m'a dit un jour, à ma grande stupéfaction, je connais Jésus par cœur. Si tu as bien de la chance. Ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur, je ne le connais pas, moi. Est-ce que j'éprouve la paix devant ce Dieu saint à cause de Jésus-Christ? Est-ce que l'Évangile change radicalement ma manière de vivre? Si devant ces questions, vous ressentez un tout petit peu de votre vécu, alors il y a probablement une petite semence de foi qui vous habite. Et ma prière, c'est que Jésus l'amène à son accomplissement. Faites-lui confiance. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alors je vous invite à prier.